Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur l'émission favorite que vous connaissez bien, Poker Menteur. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler ? L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, pour être plus précis, évidemment un État qui a toujours fasciné, un État avec ses grandes qualités aussi, malheureusement comme tous les États, certains défauts. Et nous allons parler plus précisément de ceci. Tantôt considéré comme le grand maître du monde, tantôt considéré comme un horrible chef de guerre impérialiste, tantôt considéré comme le chantre de la démocratie, c'est le président des États-Unis. Alors, tout un chapitre. Donc, cette émission va traiter du président des États-Unis depuis l'existence de cet État, ou plutôt de ce pays. Il faut rappeler quand même que les États-Unis n'a pas de nom. C'est un ensemble d'États, des États fédéraux, mais il n'y a pas de nom précis pour les États-Unis d'Amérique. Alors, on va, dans une première partie, essayer d'expliquer comment arrive-t-il au pouvoir, tout simplement. On verra que c'est assez particulier, c'est assez unique. En deuxième partie, nous allons voir quels sont vraiment ces éléments de sa puissance. Et il y a des éléments extrêmement importants, surtout en politique extérieure. Et enfin, des anecdotes chronologiques depuis le premier président des États-Unis, c'est-à-dire George Washington, jusqu'à Donald Trump. N'est-ce pas, Patrick ?
Eh oui, salut Franck. Je croyais que tu boudais, que tu voulais pas me parler.
Mais non, justement, parce que la dernière partie sera essentiellement accentuée sur
mais
Donald Trump.
Je sais pourquoi tu boudes. En fait, tu n'aimes pas Donald Trump. Ça fait des mois que je te demande une émission sur Donald Trump. C'est normal, moi je l'appelle mon ami Donald Trump, donc tu dois être un peu vexé.
Tu m'as caché ça, en fait.
Voilà.
Hein, ouais.
Mais moi, comme je l'ai dit précédemment, je suis ami avec les cinglés, ça évite qu'ils nous balancent des coups de couteau dans le dos. Donc, il était nécessaire de faire une émission sur Donald Trump, mais on a décidé de commencer par mettre en perspective, en parlant de tous les présidents américains, parce que c'est intéressant de rétablir la filiation historique. Donc, dans un deuxième temps, on parlera ensuite de Donald Trump, et je dirais, vous aurez la surprise un petit peu, de voir comment ça va se dérouler, qui vivra verra.
Et avant tout, nous parlons de l'élection du président. Alors, ce président des États-Unis, alors, petit rappel historique, les États-Unis donc, sont nés, vous savez, des 13 colonies britanniques qui ont refusé cette mainmise anglaise à la fin donc, du XVIIIe siècle et annoncent leur indépendance en 1700, le 4 juillet 1776. Et donc, s'ensuit évidemment un conflit avec les Anglais, une aide française importante. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu l'aide française donc, de Lafayette et de Rochambeau, les Anglais auraient sans doute remporté une victoire militaire.
Oui, mais c'est normal. Pour un Français, c'était un plaisir d'emmerder les Anglais.
Donc, oui, et surtout, il y avait des relents.
Même si ça coûte un peu d'argent et de mort, c'est pas grave.
Et il y avait des relents de la guerre de 7 ans. Je ne sais pas si tu connais, Patrick, la guerre de 7 ans.
Pas, j'étais trop jeune.
Eh ben, parce que la France a perdu Québec et Montréal. Et ça n'a pas plu du tout,
Il fallait leur faire payer.
Aux responsables militaires français. Ouais. Et le problème, c'est qu'effectivement, ça a ruiné la France et ça a conduit aussi à la famine et aussi à la Révolution française. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ouais.
Restons à l'élection du président. Donc, on arrive dans le temps. En 1789, c'est la première élection présidentielle moderne, si je puis dire.
Mmh.
On n'a pas connu ça avant. Il y a eu des élections sous l'Antiquité, mais c'était par cité, c'était compliqué. Là, c'est à l'échelle de plusieurs États, des 13 États.
Ils sont quand même précurseurs à ce niveau-là.
À ce niveau-là, ils sont précurseurs. Mmh. Et ça n'a guère changé depuis.
Mmh.
Alors évidemment, le nombre de personnes a évolué parce que la population a évolué et les gens qui peuvent voter aussi ont augmenté.
Ah oui, ça a changé aussi.
Par rapport à l'évolution du droit de vote. Et ça, on en reparlera tout à l'heure.
Tout à fait.
Donc le mandat au départ était prévu par un mandat de 4 ans, volontairement court pour éviter toute forme de despotisme
qui
rappellerait éventuellement l'Angleterre.
Tout à fait. Il y a cette volonté, on va le voir dans l'histoire, qui s'est jamais démentie, de garder quand même un pouvoir fédéral faible, d'accord, pas trop fort.
Tout à fait.
Et on voit dès le départ que c'est une vraie volonté, c'est pas un hasard.
Alors, comment ça se passe, ce mandat de 4 ans? Et surtout, comment le président est-il élu? Alors, c'est un peu compliqué. Alors, on parle déjà de suffrage universel direct. Alors, je mettrai « universel » entre guillemets. Mmh. Parce que, en fait, c'est une minorité de personnes qui peuvent voter pour un corps électoral.
À l'époque, tu voulais dire?
Oui, oui, bien
d'accord,
sûr.
D'accord, okay.
Au tout début. Hein.
Ouais.
Mais le système est toujours le même.
Ouais. Mmh.
Le système est a une forme universelle, donc non pas directe, mais indirecte. Peut-être que je dis direct, j'ai dû me faire une petite erreur.
Ouais, c'est... ouais, mais expliquons cette histoire d'indirect, justement, qui
alors,
va faire la différence par rapport au système français.
Vous avez les électeurs, quand ils vont se rendre aux urnes, ils vont voter pour un, ce qu'on appelle un collège électoral, c'est-à-dire des grands électeurs qui sont désignés par les États. Mmh. Donc chaque État désigne leurs grands électeurs. Alors, pour respecter la population de chaque État, plus un État est peuplé, plus ouais. il y aura de grands électeurs.
Un plus grand nombre de grands électeurs.
Alors, si on regarde ça maintenant, vous avez actuellement 538 grands électeurs qui sont donc nommés par les États juste avant les élections.
Au total des 51 États.
Au total des 50 États.
50, ils sont
50.
Je crois 51.
50 États. Et ça veut dire que vous avez, en fonction de la population, un État comme la Californie à 55 représentants, 55 grands électeurs. Le Texas...
Donc 10% quoi.
38, vous imaginez. Hmm. La Floride, 29. New York, 29.
D'accord. Donc si ça on ajoute cela, déjà, ça fait du monde.
Voilà. Alors, vous prenez l'Alaska, il y en a 3. C'est le minimum.
Non, il fait froid en Alaska. Quoi.
Donc,
ils sont tous morts, les autres.
Le Montana aussi. Mais il fait un peu plus chaud au Montana, quand même. Donc, vous n'en avez que 3 au Montana. Donc, l'intérêt, en fait, c'est pas tellement de pousser à avoir un maximum d'États. Parce que celui qui remporte l'élection dans un État rafle tout.
Ouais.
Sauf...
Ça, c'est important de le dire. Hein.
Oui, il rafle toutes les voix.
Ouais, ouais. Donc, celui qui remporte la Californie, d'un coup, il a 55 électeurs.
Il a 55
même
électeurs.
S'il a gagné que par 51% en Californie.
Alors, justement, allusion à quoi? Allusion à l'élection de George W. Bush en 2000. Mmh. Souvenez-vous, il y a eu un doute sur l'État de Floride. L'État de Floride, à l'époque, c'était 25 grands électeurs. Maintenant, c'est 29. La population de la Floride a augmenté depuis. Mmh. Et on ne savait pas, on a dû recompter plusieurs fois.
Ouais.
Souvenez-vous, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Mmh. On ne savait pas qui avait gagné réellement l'élection.
Il y a eu des soupçons de fraude.
Il y a eu
des
gros soupçons de vote.
Gros, les soupçons. Hein.
Parce que, tout simplement, le gouverneur de Floride s'appelait Jeb Bush.
Le frangin, alors.
Le frère de George W. Bush. Mm. Et donc, il aurait gagné avec 500 voix d'écart. Résultat, il rafle les 25 grands électeurs et il gagne l'élection.
Ouais.
Et il lui manquait combien de grands électeurs pour gagner 25?
Oh, c'est étonnant.
Voilà, voilà comment c'est passé en 2000. Donc, vous voyez, même dans un État dit ultra-démocratique, là, on a toujours eu effectivement un soupçon de fraude. Il y aurait eu des gens qui auraient été rayés des listes. Des gens qui n'auraient peut-être pas voté George W. Bush. Il y aurait eu aussi des problèmes dans la gestion des décomptes. Enfin, résultat, l'élection de 2000 a été assez douteuse. Et n'oublions pas que George W. Bush, c'est sous son mandat qu'il y a eu quand même le 11 septembre 2001.
Oui, donc ça a eu un impact historique massif hein, quand même. Il a changé le monde quelque part, hein, W.
Et tout à fait. Il n'oubliait pas aussi qu'après, il y a eu la guerre en Irak.
Ouais.
Donc c'est des événements majeurs. Mm. Alors, est-ce que Al Gore aurait fait la même chose? Est-ce qu'il y aurait eu en septembre? L'histoire ne saura jamais.
Mm.
Mais enfin, il fallait quand même le rappeler. Donc ce mode d'élection, hein, ce mode de scrutin, est assez spécial dans le sens où vous pouvez avoir moins de voix que l'autre candidat.
Ouais. Et être président.
Et être président des États-Unis.
Ce qui est le cas de Donald Trump, d'ailleurs.
Et c'est d'ailleurs le cas de Donald Trump. Mm. Voilà. Alors, donc ça, c'est le mode d'élection. Alors ensuite, il faut savoir qu'ils sont élus. Donc l'élection a lieu fin novembre, à peu près. Mais de fin novembre jusque donc des résultats en fait jusque à l'entrée en fonction du président, il faut attendre à peu près 2 mois.
Oui, oui.
Il entre en fonction
le 10 janvier, je crois, non?
Le 20 janvier.
20 janvier, je ne sais pas loin.
Donc voilà, le discours d'investiture a lieu le 20 janvier. Il faut savoir une chose, c'est que ce discours d'investiture permet réellement de prendre le pouvoir pour le nouveau président. Et que pendant ce temps-là, pendant ces décembre, janvier, pendant ces
quelques semaines de...
C'est 2 mois, on va dire.
De latence.
L'ancien président est toujours président.
Bien sûr.
Il n'y a pas d'absence de pouvoir. Attention. Mmh. Donc vous avez donc cette élection qui est un peu particulière, qui met en place effectivement un président qui est élu pour 4 ans, un mandat relativement court, et il ne peut se représenter qu'une fois. Mmh. Donc il peut être réélu qu'une fois, pardon. Ouais, ça veut dire que
deux mandats maximum.
Maximum. 8 ans de pouvoir. D'accord ? Alors on verra qu'il y a eu une seule exception à la règle. Alors je ne vais pas citer dans le détail tous les pouvoirs précis du président de la République. Ils sont absolument immenses, surtout au niveau diplomatique et militaire. Regardons plutôt les anecdotes. Les anecdotes depuis le premier président des États-Unis.
Qui s'appelle ?
George Washington.
Ah bah donc lui déjà le nom, on se souvient.
George Washington est considéré comme un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Hein, il a fait la guerre de libération par rapport aux Anglais. Donc il se présente candidat en 1789, à l'époque où nous, on était en train de faire la Révolution.
Ouais.
Alors, anecdote sur lui, il a été élu à l'unanimité.
Par les grands électeurs.
Par les grands électeurs. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que c'était le seul candidat.
Ah ouais, c'est ça, il n'y avait personne en face. Ouais.
C'était le seul candidat. Alors, pour une première élection dite démocratique...
Ouais, c'était pas top.
C'était pas top. Hein. Un seul candidat, unanimité, c'est quand même assez bizarre. Mais bon, toujours est-il que ça a été un très bon président. Là n'est pas le problème. Mais je rappelle aussi que, dans le même temps, vous avez toujours l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Et c'était... M. Washington était un grand propriétaire terrien et il avait des esclaves.
Ouais, bien sûr.
Donc vous voyez, ça reste perfectible, le système.
Ouais.
Il faudra du temps. Donc c'était quand même à préciser que le père fondateur des États-Unis d'Amérique, parce que son nom va porter le nom de la capitale qui va se construire dans la foulée.
Ouais.
Parce que je vous rappelle que la première capitale, c'est Philadelphie, pas Washington. Donc il avait certes, cet homme, beaucoup de qualités, mais il était perfectible. Je dis toujours, on est toujours perfectible.
Nobody's perfect, comme disait Jack Lemmon.
Alors,
dans certaines
autre choses. Anecdote. William Henry Harrison, que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas d'ailleurs.
Non, je ne le connais pas perso.
Que je ne connais pas d'ailleurs, enfin je ne connaissais pas avant d'avoir fait cette étude. En 1841, donc justement, en janvier 1841, il prononce son discours d'investiture. Et ce jour-là, il fait extrêmement froid. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il contracte une pleurésie et il meurt un mois plus tard.
Si on l'appelle Monsieur Pas de Bol.
Oui, peut-être qu'il aurait dû s'habiller plus chaudement, ou peut-être qu'il aurait dû faire son discours d'investiture à l'intérieur plutôt que dehors, a priori. Ça l'a emporté, et donc c'est le seul président à avoir fait qu'un mois, on va dire, de mandat. D'accord. Alors, on avance un petit peu dans le temps. James Buchanan, vous ne connaissez pas non plus. James Buchanan, 1857-1861.
On doit prononcer Buchanan, c'est pas pour t'embêter, mais je pense.
Ah, j'avoue que tu es beaucoup... plus spécialiste que moi en la matière. Alors, Buchanan ?
Ouais, c'est mieux.
Lui est le plus détesté des présidents des États-Unis. Pourquoi ? Parce que les Américains le considèrent comme celui qui a été incapable d'empêcher la guerre civile, c'est-à-dire la guerre de sécession. Hein, je rappelle qu'à l'époque...
Donc, c'est en quelle année, tu dis, à peu près ?
1861, c'est le début de la guerre de sécession. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez le Sud esclavagiste contre le Nord qui est industriel, en fait.
Ouais.
Alors, je dirais que la différence, la grande différence entre les deux, c'est que le Sud... est essentiellement rural,
oui,
et
voilà.
Le Nord essentiellement industriel. Donc cette guerre était vouée forcément à l'échec.
Pourquoi ?
Au niveau du Sud.
Ah, au niveau du Sud, oui, d'accord. Oui,
ah,
bien
oui.
sûr. Oui, oui, les forces en présence n'étaient pas égales.
Bah, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la puissance industrielle du Nord allait l'emporter, et c'est ce qui est arrivé. Sachant que le Sud avait des meilleurs généraux. Ça, c'est une parenthèse. Hein.
Ah, oui.
Notamment, le général Lee était du côté du Sud et était très considéré même par les nordistes.
D'accord.
Et c'est lui, donc, qui va se rendre à... Ulysse Grant. Voilà, Ulysse Grant qui représentait les nordistes en 1865.
Enfin, bref, général Grant.
James Buchanan.
Non, Buchanan.
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 Où tu vas là ?
Je ne sais plus. Donc il empêche, il n'est pas capable d'empêcher cette guerre civile, il sera toujours détesté au cours du 19e siècle. Par contre, son successeur, Abraham Lincoln, est très connu.
Oui, aussi, oui.
Et en 1861-1865, vous avez la guerre de sécession et il va être président durant la guerre de sécession. Donc, vous savez que la guerre de sécession, enfin, je vous le dis si vous ne le savez pas, c'est la guerre qui a fait le plus de morts aux États-Unis, plus de morts militaires américains qu'au cours du XXe siècle.
Oui, donc ça n'a pas rigolé, quoi.
C'est près de 800 000 morts.
Hein. Ah oui, c'est extrêmement meurtrier.
Et énormément de civils, des militaires et aussi énormément de civils. Et d'ailleurs, c'est la première, une parenthèse, hein, c'est la première... guerre qui a été photographiée.
D'accord, ouais, bien sûr, vu l'époque, donc, l'apparition de la photo.
Ça permet de médiatiser encore plus le phénomène.
D'accord.
Donc, ce brave homme, malheureusement, qui met fin à l'esclavage, en 1865...
Lincoln, hein, tu parles de Lincoln.
Abraham Lincoln, bien sûr, se fait assassiner. Premier président assassiné de l'histoire des États-Unis. Il va assister à une pièce de théâtre avec sa femme, et puis vous avez un illuminé qui décide et qui ne supporte pas de voir la fin de l'esclavage dans le Sud, qui met fin à ses jours. Alors qu'au départ, il voulait simplement le kidnapper.
Ah d'accord, ça a mal tourné.
Et c'était toute une machination, c'était plusieurs individus qui avaient préparé le coup. Alors on continue en avance dans le temps. James Garfield, 1881. Alors lui, pourquoi j'en parle ? Encore une fois, pas très connu. C'est le deuxième président à être assassiné, encore une fois par un illuminé. Cet illuminé, en fait, avait des visions et il avait des messages venant de Dieu.
Ah d'accord, c'était un cinglé quoi.
Et disant, on peut l'appeler comme ça. Enfin. Et il allait régulièrement à la Maison Blanche pour demander un poste d'ambassadeur en Europe. Et a priori, alors c'est une anecdote aussi, il venait avec les mêmes vêtements, il ne se lavait pas. Enfin, c'était, on imagine un peu le genre de personnage. Enfin, on rit, mais n'empêche qu'il a assassiné James Garfield.
Et il a son titre de gloire, hein. Tout le monde n'a pas assassiné un président américain.
Et même en parlant de ces moments où il avait des contacts avec Dieu, etc., devant la cour où il a été jugé, la cour l'a considéré comme coupable et saint, entre guillemets, de corps et d'esprit, et il a été pendu.
Ah d'accord.
Hein, parce qu'à l'époque, quand tu es donc un président des États-Unis, c'était la mort par pendaison.
On n'allait pas s'arrêter à ce genre de détail, est-ce qu'il est fou ou saint d'esprit ?
Voilà. On avance encore dans le temps. William McKinley, qui lui a été relativement connu pour représenter, c'est le premier président qui représente l'impérialisme américain. Hein, il va faire
notamment
entre 1897 et 1901.
D'accord.
Dans le sens où il va attaquer les Philippines et Cuba et envahir ces îles.
Début d'une bonne habitude que les Américains vont contracter et vont garder.
Donc, c'est le premier. Hein. Donc, une fois qu'ils ont complètement maîtrisé leur territoire, notamment chassé les Indiens complètement dans les réserves à l'ouest, ils vont commencer à s'attaquer à l'extérieur du pays.
D'accord. Donc, c'est le premier. Philippines et quoi ?
Et Cuba.
Et Cuba.
Justement,
tiens,
Cuba, on va en reparler. Et donc, McKinley, lui aussi, va mal terminer. Il va être assassiné par un anarchiste.
Ah, les anarchistes.
Et là, on est en pleine période anarchiste dans le monde. Et je rappelle que la guerre de 14 est née aussi par un crime d'un anarchiste.
Ouais, ouais. À partir de fin 19e siècle, il y a vraiment un début de mouvement politique anarchiste, mais qui tournait vers la violence, hein, l'action politique par la violence.
Exactement.
Et dans le monde entier.
Troisième président assassiné en pleine période, donc anarchiste, en 1901. À noter que son assassin va mourir sur la chaise électrique. C'est la première fois qu'on va essayer la chaise électrique sur quelqu'un.
Ben on peut espérer que ça a bien marché. Hein, parce que
ça a très bien marché, a priori. Alors, on continue encore dans le temps. Woodrow Wilson, 1913-1921, important. Pourquoi ?
Ah bah oui.
Il intervient du côté des Alliés en 1917.
Voilà, c'est Première Guerre mondiale. Il déclenche l'intervention
mais autre chose,
américaine.
Autre chose importante, il donne le droit de vote aux femmes.
Ah ! Petit chenapan.
1919. Donc, vous voyez, le nombre d'électeurs, d'électrices plutôt, va augmenter.
Ah oui, bien sûr.
Alors, après, on passe à Roosevelt. Roosevelt, 1933-1945, seul président.
Franklin Delano, hein, il y en a eu un avant.
Il y a eu Théodore avant, d'ailleurs, qui apparaît sur les Monts Rochemort. Donc, Roosevelt, 1933-1945, est le seul président donc, à remporter 4 élections présidentielles.
Donc, c'est l'exception à la règle dont on parlait tout à l'heure, qui consistait à dire 2 mandats maxi, sauf Franklin Delano.
Mais le contexte international l'explique,
parce
que vous avez à la fois la sortie de la crise de 1929 et surtout la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait.
Alors, justement, écoutons l'entrée en guerre des États-Unis avec le discours de Roosevelt.
Yesterday, December 7th, 1941.
Le 7 décembre 1941.
A date which will live
est une date qui restera marquée du sceau de l'infamie.
The United States of America was suddenly and deliberately attacked.
Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. L'attaque d'hier contre l'archipel hawaïen a causé des dégâts importants. Je suis au regret de vous dire que de nombreuses vies américaines ont été perdues. En tant que commandant en chef des forces armées, j'ai ordonné que toutes les mesures soient prises pour notre défense. Mais pour toujours, notre nation tout entière se souviendra de la nature de l'agression perpétrée contre nous. Peu importe le temps que cela nous prendra, nous vaincrons cette attaque préméditée. Le peuple américain avec la force du juste, se battra jusqu'à la victoire absolue. Nous nous défendrons dans toute la mesure de nos moyens et nous nous assurerons avec certitude qu'une telle forme de traîtrise ne puisse plus jamais nous menacer. Les hostilités sont avérées. On ne peut se cacher le fait que notre peuple, notre territoire et nos intérêts sont en grand danger. Avec confiance en nos forces armées, avec la détermination indomptable de notre nation, nous obtiendrons une inéluctable victoire avec l'aide de Dieu.
Oui, donc discours de déclaration de guerre hein, de Roosevelt. Alors Patrick,
C'est un discours important où on a la fameuse phrase « Dead that will live in infamy », d'accord, qui survivra dans l'histoire de l'infamie, on pourrait dire. Mais quelque part, on pourrait dire que c'est un peu le « make my day » des Américains de façon très cynique. C'est-à-dire que Roosevelt savait qu'il allait devoir, que les États-Unis allaient devoir rentrer en guerre, mais il y avait quand même une forte résistance américaine, d'accord. Les Américains n'en voulaient pas. Et lui-même, au départ, avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'entrée des États-Unis dans la guerre. Et cette attaque, par contre, qu'il n'attendait pas, à Pearl Harbor, qui a surpris tout le monde, a été le levier sur lequel il a pu jouer pour convaincre l'Amérique qu'il faut y aller. Et après, c'était plié pour les Japonais. Hein. Ils ont fait une énorme erreur. Le rouleau compresseur américain s'est lancé parce que ça ne pouvait pas être autrement.
Petite pause musicale. Woody Guthrie, de la folk.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see, this world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. Voilà,
vous avez écouté Woody Guthrie, I ain't got no home, ce qui veut dire je n'ai plus de chez moi. Woody Guthrie, pourquoi on l'a programmé ? Parce que c'est le grand chanteur folk du XXe siècle américain. Il a été l'inspirateur de Springsteen, de Bob Dylan, etc. Et cette chanson nous met vraiment dans une ambiance années 30 avec la grande pauvreté, et c'est vraiment ce que rapporte un peu à travers cette chanson Woody Guthrie. te laisse la parole, Franck, tu continues ?
Oui, alors continuons avec John Fitzgerald Kennedy. Nous sommes dans les 60, là on fait un petit bond dans le temps. Alors Kennedy sera président que peu de temps, entre 1961 et 1963. Alors il est à l'origine de pas mal de choses, notamment c'est le premier président catholique
de
l'histoire des États-Unis.
Et c'est quand même pas rien.
Et c'est pas rien. Alors j'aurais dû préciser tout à l'heure que Roosevelt est le premier à avoir utilisé la communication de masse, la radio et l'image. Et lui, ce sera aussi la même
et
chose.
Ça va être le deuxième et il va passer à un stade vraiment d'efficacité extraordinaire.
Extrêmement, extrêmement important. L'image pour lui était considérable.
L'histoire dit qu'il a vraiment défoncé Nixon grâce à sa maîtrise de la télévision.
Et qu'il était aussi photogénique, je pense.
Ça rentre là-dedans. Hein.
Alors malheureusement, il termine mal. Vous savez qu'il est assassiné en 1963 par Lee Harvey Oswald.
Ouais, et puis plein d'autres derrière, mais bon, on va juste
parler
de lui.
Et après, on n'a jamais vraiment trop su, qui était à l'origine de tout ça.
Mais oui, mais on peut soupçonner plein de choses quand même.
On peut soupçonner beaucoup de choses.
Les collusions entre la mafia, les services secrets américains, etc.
Mais rajoutons aussi qu'il était à l'origine du vote des minorités.
Oui.
Et donc, c'est son successeur.
Des blacks, hein, pour parler franchement.
Oui, en gros, c'est les Afro-Américains. Et c'est son successeur, donc Johnson, qui va appliquer la loi où définitivement les Noirs pourront aller voter sans être intimidés ou menacés.
Ouais.
Parce que la loi existait depuis 1870, mais les Noirs n'y allaient pas.
Ouais.
Et donc là, ils peuvent voter que depuis réellement 1965.
Ouais.
Souvenez-vous de Martin Luther King qui se battait pour les droits civiques. C'était
voilà,
ça.
C'est cette époque, oui.
C'était ça. Hein. Alors, on va terminer rapidement cette historique, ces anecdotes des présidents de la République. Richard Nixon, là, on est dans les 69-74, c'est le premier président qui démissionne. Ah oui, un petit retour en arrière. Avant de parler de Nixon, j'ai fait comme une petite erreur. Nous allons passer l'extrait du discours.
Ah bah ouais, quand même.
Ah bah oui, où Kennedy lance le programme spatial.
Encore un moment historique.
Un petit moment historique.
Les yeux du monde sont désormais tournés vers l'espace, vers la Lune et les autres planètes. Et nous avons juré de ne pas le voir gouverné par le drapeau hostile de la conquête, mais sous la bannière de la liberté et de la paix. Nous avons juré de ne pas voir l'espace rempli d'armes de destruction massive, mais avec des outils de savoir et de connaissance. Pourtant, nos vœux ne peuvent être exaucés que si nous, notre pays, sommes premiers et nous avons l'intention d'être premiers. En bref, notre leadership dans les sciences et l'industrie, nos espoirs pour la paix et la sécurité, nos obligations envers nous-mêmes et envers les autres, tout ceci nous oblige à faire cet effort. Celui de résoudre ces mystères, de les résoudre pour le bien de l'humanité et de devenir le leader mondial des voyages spatiaux. Nous voguons sur cette nouvelle mer parce qu'il y a de nouvelles choses à connaître et de nouveaux droits à gagner. Et ils doivent être gagnés et utilisés pour le progrès de tous les peuples. Car la science spatiale, comme la physique nucléaire et toutes les technologies, n'a pas conscience de ses capacités. Elle peut devenir une force du bien ou du mal selon les hommes. Et c'est seulement si les États-Unis occupent une position prédominante que nous pourrons décider si ce nouvel océan sera une mer de paix ou le nouveau théâtre terrifiant d'une guerre. Je ne dis pas que nous devrions aller sans protection contre une utilisation de l'espace à but hostile, pas plus que nous allons sans protection contre un usage hostile des terres et des mers. Mais je dis que l'espace peut être exploré et maîtrisé sans alimenter le feu de la guerre, sans répéter les erreurs que l'homme a commises en étendant ses ordres autour du globe. Il n'y a pas encore de combat, de préjudice, pas de conflit national dans l'espace. Ces dangers nous sont hostiles à tous. Sa conquête mérite le meilleur de toute l'humanité et l'opportunité d'une coopération pacifique pourrait ne jamais se représenter. Mais pourquoi aller sur la Lune, se demandent certains. Pourquoi choisir la Lune comme objectif? Il pourrait également se demander pourquoi escalader la plus haute montagne? Pourquoi traverser l'Atlantique il y a 35 ans? Pourquoi l'équipe de Rice joue contre le Texas? Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et d'accomplir d'autres choses, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Parce que cet objectif nous servira à organiser et mesurer le meilleur de nos forces et de nos compétences. Parce que c'est un défi que nous voulons relever, un défi que nous ne voulons pas ajourner, un défi que nous voulons gagner, et les autres aussi.
Donc, ce petit discours donc, de John Fitzgerald Kennedy qui annonce le programme spatial, juste pour le mettre en contexte, on était dans une période où les Russes, enfin les Soviétiques, avaient commencé à prendre de l'avance sur le programme spatial. Et vraiment, les Américains étaient à la ramasse, ils couraient, ils n'arrivaient pas, à chaque fois ils se faisaient surprendre. Et vraiment, Kennedy va mettre une énorme pression sur la NASA en disant « Ok, on lance le programme spatial ». Alors, il y a un ou deux gars à la tête de la NASA qui font le pari en disant « Ok, on y arrivera ». Mais tout le monde tremblait dans ses bras. Ils ne savaient pas du tout s'ils allaient y arriver et ils avaient très peur que ça tourne à l'humiliation majeure. Mais bon, l'histoire a montré que ce fut une réussite majeure.
Oui, ce serait l'occasion évidemment de parler des relations tendues Est-Ouest, mais ce n'est pas le moment.
Ouais.
Alors, terminons avec justement Richard Nixon. 1969-1974, alors, il va être réélu, mais le problème qui s'est posé avec ce président, d'ailleurs qui a assisté justement, lui indirectement, au programme spatial, c'est que ce cher Richard Nixon va être obligé de démissionner parce qu'il va subir la première procédure d'impeachment. Je sais pas trop comment.
Ouais, impeachment, oui. Mais enfin bon, il a quand même essayé, il a planqué des micros pour écouter des journalistes ou c'était écouter les démocrates.
C'était carrément des micros qui étaient planqués dans les bureaux des démocrates.
Des démocrates, voilà.
Avec
donc,
les fameux.
Il s'est fait prendre la main dans le sac et il a été.
Oui, c'est comme ces fameux plombiers là, qui étaient là pour installer. Watergate a fait que Nixon est parti. Et donc son successeur était le vice, alors je ne vais pas parler du vice-président, mais le vice-président dans ces cas-là le remplace.
Oui, puis il n'est pas resté longtemps de toute façon.
J'ai oublié d'en parler, le vice-président a un rôle à tenir. Hein. Et donc il n'est pas resté longtemps et il n'a pas marqué non plus fortement les esprits.
Non.
Donc voilà en gros, je dirais les petites anecdotes, les présidents qui ont quand même marqué l'histoire, l'histoire des États-Unis d'Amérique. Mais celui maintenant qui marque l'histoire actuelle, c'est un certain Donald Trump, Patrick.
Ouais. Et pour lancer Donald Trump, je cite quand même un monsieur qui a quand même lancé une vraie révolution mondiale libérale qu'on a appelée la mondialisation, c'est Ronald Reagan, d'accord ? Et Ronald Reagan a été un inspirateur quand même de Donald Trump. Après Reagan, on a eu donc Bush père qui a lancé la première guerre du Golfe, puis Clinton par deux fois, puis ensuite Bush fils, un des présidents les plus stupide de l'histoire de la présidence américaine, c'était un crétin fini, mais qui a changé gravement les choses en allant envahir l'Irak, puis Obama, et on arrive donc à Donald Trump. Alors Donald Trump, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais d'abord, dans une première partie, vous présenter son parcours, parce qu'il est intéressant, parce que souvent, on le connaît vaguement, mais pas tant que ça. À 25 ans, très jeune, il prend la tête de l'entreprise familiale, qui est une entreprise d'immobilier. Sa première mesure consiste à renommer et l'appeler The Trump Organization. Ça va montrer une obsession chez lui de mettre son nom de partout, d'accord? Une espèce d'ego hyper surdimensionné. Donc c'est un empire immobilier, il va se lancer là-dedans. Alors, sa storytelling qu'il va transmettre durant la campagne pour les élections, c'est de dire « Mon papa m'a prêté un petit million de dollars et je lui ai remboursé avec intérêt rubis sur l'ongle ». On verra que la réalité est tout autre. Mais bon, il développe son business aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Il construit une tour qu'il appelle la Trump Tower, bien sûr, en 1983, qui reste célèbre, parce que c'est là qu'il tournera son émission The Apprentice, on y reviendra. Il se lancera dans les casinos, construire un casino qu'il appellera le Trump Plaza, bien sûr, en 84. Ensuite, il va racheter un casino qui s'appelait le Taj Mahal, et devinez quoi, il le rebaptise le Trump Taj Mahal. En même temps, il n'est pas complètement fut-fut, je veux pas être méchant, mais bon, le Trump Taj Mahal va faire une énorme concurrence au Trump Plaza, donc ça va tourner en cacahuète cette histoire-là. Ils vont devoir négocier des restructurations, il va y avoir des faillites, et il va vivre une période, fin des années 80, années 90, difficile, avec beaucoup de déboires. part, il a une compagnie aérienne qu'il devra revendre, il a un yacht qu'il appelait, devine quoi, Trump Princess, il va devoir le revendre. Le groupe qui va rassembler ses activités de casino, le Trump Entertainment Resort, va déposer le bilan en 2004, va redéposer le bilan en 2009. Donc, quelque part, ses activités dans les casinos, c'est un peu les montagnes russes, en quelque sorte.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est mégalomane, en fait ?
Ah oui, il est mégalomane, ça c'est clair. Et après, c'est un businessman, bon, on va en parler après de son bilan de businessman. Il gère aussi beaucoup de terrains de golf, d'accord, c'est son truc. Il est propriétaire de concours de beauté, il a été propriétaire d'une agence de mannequins qu'il a fermée en 2017. Il avait ouvert une compagnie de transport aérien, alors là ça a été rapide, 89, et elle a fermé en 92 à cause de ses difficultés. Un de ses faits d'armes aussi intéressant, c'est qu'il s'est lancé dans la formation, il voulait créer des formations immobilière pour les métiers de l'immobilier. Il a appelé ça la Trump University, bien sûr. Sauf que là, l'État de New York l'a attaqué en justice, lui a réclamé 40 millions de dollars pour publicité mensongère. Il y a eu un procès qui est très récent, hein, novembre 2016, au moment où il est candidat, qui est annulé in extremis parce qu'il trouve un accord à l'amiable très américain. Et dans cet accord, il verse quand même 25 millions de dollars aux plaignants, hein, à 6 000 plaignants. Mm-hmm. Et il paye 1 million de dollars d'amende pour avoir enfreint les lois sur l'éducation. Un de ses points forts, c'est quand même, vous l'avez compris, de mettre son nom Trump de partout. Et il a décliné son nom alors en parfum, en thé, en vodka, en cravate, etc. Et il touche pas mal de royalties à ce niveau. Alors bien sûr, les experts de Forbes, le journal Forbes, disent en 2011 que ses royalties valent à peu près, enfin, disons que la marque vaut à peu près 200 millions de dollars. Et Trump, dans sa modestie habituelle, dit non, elle vaut 13 milliards de dollars. Donc voilà. Bon, on voit qu'il a connu donc des fortunes diverses. En 2016, le magazine The Economist, le fameux magazine américain, a analysé globalement sa carrière d'homme d'affaires. Et elle dit quoi ? Bah, elle dit sur toute la période historique, hein, qui va donc de 71 à aujourd'hui, ses résultats ont été globalement médiocres. Par rapport à quoi ? Par rapport à la moyenne du secteur immobilier et par rapport à l'évolution moyenne du marché boursier new-yorkais. Bon, il n'a pas apprécié trop hein, ce genre de choses. Combien il pèse financièrement, le gars Trump ? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir qu'en 82, donc, Forbes, qui publie la liste des Américains les plus riches, lui avait attribué une fortune de 200 millions de dollars. Elle a quand même bien progressé, cette fortune, puisqu'en 2015, Forbes a estimé sa fortune à 4 milliards de dollars, sachant que Trump, bien sûr, l'estimait au double. Donc, elle a progressé, mais pas tant que ça, si on prend l'évolution globale de ces secteurs, comme je l'ai dit précédemment. Pour revenir sur le petit storytelling hein, qui racontait, donc je me suis lancé avec un petit million de dollars, là, il y a le New York Times, en octobre 2018, qui sort une enquête ultra approfondie et très très documentée bien entendu, qui prouve qu'en fait il a touché sur X années la coquette somme de 413 millions de dollars de la part de son père. Beaucoup de cette somme passant dans le cadre de système d'évasion fiscale. Donc le fiston qui s'est fait tout seul, c'est un peu du pipeau. On va passer maintenant, après cette rapide présentation un peu de son parcours, à un aspect bien sûr qui est l'aspect fondamental, tu l'as dit, il est mégalomane, c'est sa carrière médiatique. Et on va commencer pour ça par un petit extrait de discours qu'il a tenu en septembre 2018 à l'Assemblée de l'ONU.
Aujourd'hui, je me tiens devant l'Assemblée générale de l'ONU pour partager les progrès extraordinaires que nous avons faits. En moins de 2 ans, mon administration a accompli plus que quasiment toutes les autres administrations dans l'histoire de notre pays. L'Amérique, c'est la vérité.
Didn't expect that reaction, but that's okay.
Voilà donc un petit discours. À la limite, c'est pas le sujet qui est important. Ce qui est important de voir, c'est que il a vraiment un ego ultra surdimensionné et il a.
Est-ce que tu peux
aucun doute sur lui-même.
Est-ce que tu penses qu'il se Il aurait pu se douter des réactions
du
public.
Non, il s'en doutait pas. Parce que pour lui, c'est tellement une évidence qu'il raconte. Je suis le meilleur. Ce que nous avons fait en 2 ans, personne ne l'a jamais fait dans l'histoire des États-Unis. Pour lui, c'est une évidence. Et l'ONU qui éclate de rire, l'Assemblée de l'ONU, c'est pas trop leur style. C'est quand même des gens un peu raides, hein, d'accord. Donc, c'est quelque chose d'inattendu. Mais c'était tellement énorme et les gens n'ont tellement pas l'habitude de voir un tel personnage accéder à des responsabilités politiques, surtout aux États-Unis, que ça crée ce type de réaction. Bon, là, c'était en guise d'introduction. Hein, alors, comment il a commencé commencer par il faut vraiment avoir en tête qu'il a un vrai talent quand même, ce monsieur, un talent pour se créer un personnage médiatique. Et je pense que c'est même son talent numéro un. En fait, dès les années 80, il a commencé à travailler sur son personnage médiatique, à se construire un personnage comme étant le businessman, l'homme qui a réussi.
Alors Patrick, une question, il n'a pas fait de la télévision ?
Alors, il en fait, je vais en parler juste après, oui, d'accord, oui. Mais il est apparu dans... Tiens-toi bien, dans 12 films de cinéma, 12 longs-métrages,
ah bon,
et dans 14 séries télévisées.
Ça, je ne savais pas du tout ça.
Oui, mais attention, dans la plupart des cas, il interprète son propre rôle. Il intervient dans ses séries et ses films comme Monsieur Trump, d'accord ? Et c'est des films du genre « Maman, j'ai encore raté l'avion », et des séries comme « Le Prince de Bel-Air »,« Sex and the City », ce n'est pas des petites séries. Donc, il se construit à partir des années 80 et au fil des décennies, un personnage d'homme public, haut en couleur, de businessman, d'homme qui a réussi. On le compare, et lui, il aime cette comparaison, à Charles Foster Kane, qui est le personnage principal de Citizen Kane, le premier film d'Orson Welles, qui montre un peu la montée et la chute d'un immense milliardaire américain. Et alors son titre de gloire, entre guillemets, dans la télé, c'est celui peut-être auquel tu faisais allusion quand tu m'as posé la question, c'est cette fameuse émission qu'il a commencé en 2004 qui s'appelait The Apprentice. Alors The Apprentice, c'est une émission dans laquelle, c'est télé-réalité classique,
oui,
hein,
oui,
vous avez des candidats qui s'affrontent pour obtenir quoi ? Pour obtenir un poste de 4 sup dans une des sociétés de Trump. Et lui, il est là et donc il anime ça, il va s'éclater, hein, il va faire ça pendant 14 saisons. Et la phrase clé, qui est devenue une phrase culte, évidemment, dans la bouche de Trump, c'était, quand il éliminait les candidats, « You're fired ». Voilà, donc ça, c'est un des éléments médiatiques.
Tu peux traduire
vous êtes viré.
D'accord.
Vous êtes viré. Voilà.
D'accord.
C'est ce qui est joué, vous êtes viré. De toute façon, à la fin, il n'en reste qu'un et c'est lui qui est embauché. Donc voilà, ça, c'était pour son personnage médiatique et qui est une clé importante pour comprendre son succès futur. Mais bon, il y a bien un moment, tu t'en doutes bien, où il a commencé à s'intéresser à la politique. Alors la question, c'est à partir de quand ? Eh bien, il a commencé à s'intéresser à les années 80. Mais alors, vous allez voir, Donald, c'est une girouette comme on en a rarement vu. En fait, il a commencé au Parti démocrate. Ça peut être très surprenant, mais il a commencé comme démocrate.
C'est des choses courantes, hein, même en France.
Années 70.
Ceux qui changent de courant.
Pas tant que ça, quand même. Ni aux États-Unis, ni en France.
Il y en a quelques-uns, quand même.
Voilà, quelques-uns, mais alors... C'est quand même pas les plus fréquents.
Souviens-toi de Besson.
Oh non, mais d'accord, mais tu parles de la Ligue de l'Humanité, alors bon, n'en parlons pas. Passons à autre chose. Donald Trump commence démocrate dans les années 70. Par contre, quand Ronald Reagan arrive, et là, je pense qu'il est vraiment sincère. Il se découvre une admiration sans borne pour Reagan, hein, l'homme qui va mettre en place la révolution libérale mondiale. Donc, il s'engage au Parti républicain. Dès 87, ça c'est intéressant, il va adresser par voie de presse une lettre ouverte au peuple américain et il va vraiment, pour la première fois, préconiser une politique isolationniste pour relancer l'économie des États-Unis. Là, il pose un jalon qu'on va retrouver, hein, le positionnement isolationniste, on en reparlera, de Donald Trump.
Est-ce que je peux faire une petite parenthèse parler de l'origine historique de ce mouvement ? Alors j'aurais pu en parler tout à l'heure par rapport aux présidents qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Celui qui a créé cette forme d'isolationnisme, c'est un certain Monroe qui a mis en place la doctrine Monroe. Là on est en 1817-1818, hein, c'est vraiment tout début. Hein. Donc vous avez cette volonté dans un premier temps de chasser les grandes puissances européennes d'Amérique du Nord et même d'Amérique tout court.
Donc les Anglais.
C'est-à-dire ils voulaient chasser d'abord les Anglais, donc en créant les États-Unis, mais surtout aussi les Espagnols, les Français, d'accord, les Portugais, on n'en parle pas, les Portugais ça ne concernera que le Brésil, mais surtout essentiellement les Espagnols et les Français.
D'accord.
Alors avec les Français, ils vont racheter des territoires, avec les Espagnols, ils vont faire la guerre. Notamment la guerre contre le Mexique, souvenez-vous du Fort Alamo. Pour revenir à cette doctrine, l'isolationnisme, c'est-à-dire en gros l'Amérique aux Américains, ou plus précisément l'Amérique aux États-Unis.
Oui, c'est plus précis.
C'est ça qu'il faudrait dire. Cette doctrine, cette mentalité commence dès le début du 19e siècle.
Et il y aura toujours un courant très très fort dans la population américaine pour cette politique, cette vision isolationniste. Alors donc là, c'est un marqueur. Alors dès la fin des années 80, il va pourtant quitter le Parti républicain. Non, c'est après qu'il va quitter le Parti républicain, excuse-moi, à la fin des années 90.
Démocrate, non ?
Il va le quitter. Non, il ne revient pas au Parti démocrate. Ah, il va s'inscrire dans un petit parti qui s'appelle le Parti de la réforme des États-Unis d'Amérique, fondé par, devine qui, Ross Perot. Ouais. Ça dit quelque chose,
Ross Perot ? Il a été candidat, bien sûr.
C'est un monsieur qui a été candidat et qui a bien contribué à faire perdre les élections à Bush père au début des années 90. Il a vaguement envisagé à un moment de devenir candidat au nom de ce parti, mais bon, il a renoncé parce qu'il voyait que les intentions de vote n'étaient pas terribles. Et quand Bush arrive au pouvoir, donc dans les années 2000-2010, il va à nouveau s'affilier démocrate. Parce qu'en fait, il ne va pas du tout accrocher avec Bush fils. Cette politique de guerre en Irak, il va la critiquer très fortement, la désavouer publiquement dès 2004. Et donc, il y aura vraiment toujours des relations très tendues entre les Bush père et fils et Donald Trump. Donc à l'époque, il dit « Je suis un mix de démocrate et de républicain ». Et bon, il soutient quand même John McCain en 2008. Là où il va repencher du côté républicain, c'est quand il va voir arriver un noir au pouvoir. Et là, ça ne lui plaît pas du tout. Hein. Barack Obama, non, ça ne lui plaît pas du tout. Et il va être un des premiers à propager une rumeur qui va dire que Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. C'est une rumeur qui est évidemment totalement fausse, mais lui, on va voir que ça ne gêne pas trop. Il va la propager entre 2011 et jusqu'en 2016. Ce n'est qu'en 2016 qu'il va admettre que Barack Obama est bien né aux États-Unis. Et ça va faire de lui une sorte de porte-parole de cette Amérique blanche, raciste, d'accord, et qui ne supporte pas de voir un noir au pouvoir. Alors évidemment, Obama va répondre de façon un peu avec toute la force de sa dialectique et de son sens de l'humour. Et il va beaucoup se moquer, Obama, de Donald Trump. Et on va voir un extrait, on va écouter un extrait d'un des discours dans lequel il se moque de Donald Trump.
Nah. I'm just kidding.
Non, je plaisante. Vous savez que je vais parler de Trump. Son absence ce soir m'attriste un peu. On s'est tellement amusé la dernière fois. Et c'est surprenant. Il y a une salle pleine de journalistes, de célébrités, de photographes, et il a dit non. Est-ce que ce dîner est trop tape à l'œil pour le Donald ? Qu'est-ce qu'il peut avoir à faire à la place ? Est-ce qu'il est chez lui, en train de manger un steak Trump ? En tweetant des insultes à Angela Merkel ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Vous êtes bien sur Radio Calade 100.9, vous écoutez Poker Menteur. Alors nous parlons actuellement des États-Unis d'Amérique et plus particulièrement de Donald Trump.
Oui, alors déclaration d'Obama, un déjeuner de la presse, alors c'est peut-être cette déclaration ou une précédente, en tout cas ça fait partie des déclarations où donc Obama s'est beaucoup moqué de Trump parce que Trump critiquait Obama, et on dit dans les milieux américains que ce serait ces déclarations-là qui auraient déclenché la volonté chez Trump de se présenter aux élections suivantes. Voilà, donc c'est quelque chose qui historiquement est à noter. Donc il est à nouveau résolument du côté républicain et il va s'annoncer comme candidat aux primaires républicaines en 2015 à la surprise générale, hein, d'accord, avec son slogan Make America Great Again, ça veut dire rendez sa grandeur à l'Amérique, qui est un slogan qu'il a pris à Ronald Reagan, c'est pas par hasard, hein, y a vraiment cette fascination pour Reagan. Alors, bien sûr, l'effet Trump va être très fort, c'est-à-dire que le personnage médiatique qui s'est construit au fil des décennies va jouer en sa faveur et sa candidature va vraiment progresser très très vite et l'audience médiatique de sa candidature va être extrêmement forte. Alors bien sûr, c'est pas du tout un candidat habituel, hein. Il va utiliser Twitter pour insulter tout le monde, d'accord. Il va tenir des discours politiquement très incorrects, hein. Quand il parle d'immigration, il dit que les immigrés mexicains sont des criminels et des violeurs. Il propose dès cet instant-là de construire un mur le long de la frontière mexicaine. Il préconise l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. À côté de ça, il fait tout un tas de déclarations sexistes, racistes. Il nous dit que le réchauffement climatique est une invention des Chinois pour miner l'économie américaine. Bref, vu de l'extérieur, on se dit, mais ce type est complètement cinglé. Et c'est ça, en fait, le choc. C'est qu'il va vraiment casser toutes les règles habituelles du jeu politique. Et il casse tellement, et c'est tellement énorme, qu'à aucun moment, on arrive à le prendre au sérieux. Pourtant, les résultats sont là. Il va monter irrésistiblement pour finir par remporter cette investiture, à la surprise générale. Et les autres leaders républicains vont devoir le suivre, mais contraints et forcés, ils sont tous dégoûtés. Et ensuite, il attaque donc sa campagne contre Hillary Clinton, hein, la campagne présidentielle. Quand on est au mois d'août, au début de la campagne, il a entre 6 et 8 points de retard dans les sondages. Il va prendre comme directeur général de campagne un personnage qui va faire du bruit, hein, qui s'appelle Steve Bannon, qui est un responsable d'un site d'extrême droite. Pour autant, là encore, il casse tout, il est hors limite, il est hors tout ce qui se fait et qui se fait pas, il le fait.
Mais depuis, Bannon n'est plus avec lui, je crois.
Non, bien sûr, mais dans la campagne, il a joué un rôle majeur. Et pourtant, ses intentions de vote vis-à-vis de Clinton ne vont cesser de monter vis-à-vis de Clinton. Il va se rapprocher peu à peu d'Hillary Clinton.
Donc comment tu l'expliques, en fait, quelque part, ça parle à une catégorie de la population des États-Unis.
Oui, bien sûr. Derrière tout ça... il y a l'idée que... Enfin, il y a le fond du discours, en fait. Et le fond de son discours, c'est quoi ? C'est « je veux rendre l'Amérique grande à nouveau, je veux recréer des emplois aux États-Unis ». Et derrière tout ça, il parle à l'Amérique qui s'est pris la mondialisation dans la figure. Tous les États américains qui ont été désindustrialisés, qui ont été délaissés en ruine. Cette Amérique blanche pauvre, dont personne n'a rien à foutre, fondamentalement. Il y a des mouvements pour défendre les minorités black, etc., des mouvements très forts, mais l'Amérique blanche pauvre, les démocrates s'en contrefoutent, hein, on est d'accord. Les démocrates récents, c'est Clinton, Hillary et Bill. Donc lui, il va porter cette voix en disant « moi, je vais travailler pour vous ». Donc il va être élu. Alors il y a un point qui est intéressant, il faut faire un petit retour aux années 80, parce que dans les années 80, il a lancé un concept. Il a évoqué un concept qu'il appelait l'hyperbole véridique. Et dans un de ses bouquins, il explique la chose suivante. Les gens veulent croire en ce qui est le plus formidable, le plus génial, le plus spectaculaire. J'appelle ça l'hyperbole véridique. C'est une forme innocente, notez le mot innocente, il a une vision de l'innocence qui est spéciale, d'exagération et une méthode de promotion très efficace. Et c'est à partir de là qu'il va, ça explique qu'il va introduire la désinformation de façon massive, d'accord ? Donc il dit en 2001, au sujet des attentats de 2001, pendant sa campagne, il dit « J'ai vu à New Jersey City des milliers et des milliers de personnes musulmanes acclamer la chute des tours du World Trade Center ». Évidemment, ça n'est jamais arrivé.
C'est de la fabulation.
Ah oui, c'est de la fabulation. Il va relancer ses politiques. Par exemple, il dit, il sort des statistiques. Les blancs tués par des blancs, 16%, et 81% des blancs sont tués par des noirs. Et il cite une source complètement imaginaire, le Bureau des statistiques du crime de San Francisco, qui n'existe pas. Et en fait, les chiffres réels sont complètement inversés. C'est 82% des blancs qui sont assassinés par des blancs et seulement 14% par des noirs. Donc tout ça, c'est la méthode Trump, d'accord ? L'usage massif de la désinformation, des fake news, le no limit. Et il va être élu parce que derrière ça, il représente vraiment quelqu'un. Et on a donc fini cette première partie. Donald Trump est président depuis 2 ans, président des États-Unis.
De la première puissance militaire, première puissance, et une des premières puissances économiques avec la Chine, mondiale. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 années de pouvoir, Patrick, rapidement ?
Concernant l'économie, il va avoir une chance folle, c'est qu'il va arriver à un moment où le cycle de la croissance remonte très fort grâce au travail de, grâce à plein de choses, et notamment le travail de fond d'Obama, mais pas uniquement. Et il va en profiter pour surfer sur cette vague. Il va appliquer cette politique ouvertement protectionniste, d'accord, qui est vraiment son arme de fond, avec une mise en tension de la Chine, c'est-à-dire une lutte quasiment ouverte, hostile contre la Chine, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Il va essayer de remettre en cause l'Obamacare. Il ne va pas tellement y arriver parce qu'il ne trouvera pas de majorité. Concernant l'immigration, il veut toujours construire son mur. On voit qu'il a un peu des difficultés. Concernant la lutte contre le terrorisme, il a à un moment essayé d'interdire l'entrée de certains pays ressortissants de pays musulmans, mais ça n'a pas très bien marché. Par contre, il dit clairement qu'il est disposé à réintroduire l'usage de la torture, d'employer si besoin l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'entre ses discours et la réalité, il a quand même fait des choses sur le plan économique. D'accord ? Il a brouillé les cartes, il a remis en cause ce qu'on pourrait appeler la mondialisation, le libre-échange, avec l'introduction du protectionnisme, avec du rapport de force. Mais après, quelque part, il s'est aussi coulé dans un moule, le moule américain, et notamment on le voit au niveau de la politique étrangère, le moule américain, on ne peut pas le casser complètement. On veut faire une politique isolationniste, mais on doit un peu assumer ses engagements. Alors après, il assume, mais aussi, il vient d'annoncer il n'y a pas longtemps donc, le retrait d'Irak, hein, d'accord, et de Syrie, enfin de Syrie plutôt.
De Syrie, oui.
On voit qu'il essaie quand même d'appliquer sa logique isolationniste. Mais je dirais, c'est comme un énorme paquebot, quoi. Hein. Quand tu veux faire... Les États-Unis, c'est un énorme paquebot. Et Trump, il a beau être à la tête du paquebot, tu ne fais pas virer le paquebot si facilement. D'accord ? La machine, elle continue à avancer. Mais il ne faut pas négliger la capacité de remise en cause, notamment de toute la logique de la mondialisation. mondialisation du libre-échange qu'il est en train vraiment de mettre en place. Et là, il fait entrer le monde dans un certain niveau d'incertitude.
Et un mot rapide sur la politique internationale, notamment par rapport à l'Iran et la Corée du Nord, rapidement.
Là, par contre, il a vraiment réussi à remettre en cause des éléments de la politique étrangère de Obama, donc remise en cause de l'accord iranien, remise en cause également du traité transatlantique qui a été annulé, remise en cause des accords de Paris. Donc il a vraiment remis en cause pas mal de choses, malgré tout. Hein. Et il a pris des initiatives, donc la plus connue est la négociation avec la Corée du Nord pour le désarmement, où là, c'est un petit jeu de chat à la souris. Je ne suis pas sûr que le plus intelligent soit Trump dans la négociation. Par exemple, récemment, les Coréens ont dit, bien sûr, on a rendez-vous avec les États-Unis pour négocier. Et là, ils n'ont pas dit notre désarmement. Ils ont dit pour négocier un désarmement mutuel nucléaire. Et les Américains sont tombés des nues parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ah mais non, ce n'était pas prévu, désarmement mutuel, c'était que vous. Et là, par une simple petite rhétorique, les Coréens sont en train de coincer Donald Trump.
Sont intelligents, Patrick.
Et voilà, donc ce petit jeu de chat et la souris, il va falloir le suivre, ça va être très drôle.
Eh bien, merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Mathieu. Nous avons passé un très bon moment ensemble. Bonne soirée et au mois prochain. Au revoir.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9. Thank you.